le journal Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Chloé, bonjour à toutes et à tous. Ils entrent dans l'arène parlementaire aujourd'hui et seront confrontés aussi à la réalité économique et sociale. Les nouveaux ministres du gouvernement Castex, qui ont la lourde tâche de reconstruire le pays, devront répondre aux attentes de milliers de salariés qui défilent dans la rue aujourd'hui, chez Nokia, Airbus et Sanofi notamment.
Emmanuel Macron part au combat, c'est le thème du billet politique de Stéphane Robert, après votre journal.
Et l'exécutif devra s'armer davantage pour lutter contre le réchauffement climatique. La France ne parvient toujours pas à réduire ses émissions de CO2, rapport très sévère, rendu ce matin par le Haut Conseil pour le Climat.
À la une à l'étranger, les conséquences de la crise sanitaire, dramatiques pour le Liban. Climat social et politique explosifs, les étrangers fuient le pays, même dans des secteurs clés comme la santé.
Lui invoque la crise sanitaire pour refuser des visas étrangers aux étudiants. Donald Trump refuse potentiellement que plus d'un million de personnes restent aux États-Unis si leurs universités continuent d'enseigner à distance. Emmanuel Macron les a chargés de mener à bien la reconstruction de la France après la crise sanitaire. Les nouveaux membres du gouvernement Castex verront dans la rue aujourd'hui l'ampleur de la tâche à mener et les attentes immenses des salariés désarmés face à la crise économique. Une crise qui a parfois bon dos. À Paris, les salariés de Nokia vont manifester ce matin devant l'ambassade de Finlande contre l'annonce de la suppression de plus de 1200 postes en France dans un secteur d'excellence, la recherche et le développement sur la 5G. Bernard Trémulot de la CFDT Nokia fera le déplacement depuis Lannion.
Quand même, il y a eu des engagements qui ont été pris en 2015 de la part de Nokia envers le gouvernement français et envers le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Donc forcément, parmi les personnes qui doivent se sentir trahies, il y a les responsables politiques d'aujourd'hui. Notre revendication, c'est le retrait de ce plan social. Et les postes qu'on supprime, ce ne sont pas des postes de personnes travaillant sur des vieux produits. Les collègues travaillent sur la 5G, sur les problèmes de cybersécurité. Ils ont acquis des compétences qui ne sont pas transférables comme ça du jour au lendemain. C'est un gâchis technologique et humain considérable.
Bernard Trémulot de la CFDT chez Nokia, il répondait à Laurent Kramer. Les syndicats de Sanofi, eux, appellent aussi à manifester ce matin à 11h30 à Paris contre les suppressions de postes à l'appel de la CGT qui estime que la crise n'a rien à voir donc avec le millier d'emplois que la direction veut supprimer sur les 25 000 en France. Et puis grosse journée de mobilisation chez Airbus à l'appel des syndicats FO, CFE-CGC et de la CFTC. L'avionneur va supprimer plus de 3330 postes à Toulouse, principalement dans les usines. Le président d'Airbus, Guillaume Faury, table sur une baisse de 40% de la production en 2020 et 2021. 4000 à 8000 salariés sont donc appelés à arrêter le travail aujourd'hui entre 10h30 et midi en marchant avec des banderoles le long d'une piste d'atterrissage. Les syndicats négocient avec la direction depuis lundi. Ils ont 4 mois pour tenter de limiter la casse sociale. Et ce matin, l'INSEE continue de tabler sur une chute de 17% du PIB de la France au deuxième trimestre par rapport au premier. Nous vous parlions hier de la lourde tâche qui attendait par ailleurs la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, pour verdir la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Comme un avertissement, ce matin, un rapport très sévère signé du Haut Conseil pour le Climat, cette instance indépendante créée par le gouvernement pour lui donner des recommandations sur sa politique climatique. La France ne parvient toujours pas à réduire ses émissions de CO2, tous secteurs confondus. Elles ont baissé de 0,9% seulement l'an dernier, pas plus que les années précédentes. Et même la diminution des émissions liées au confinement était finalement marginale et temporaire. C'est donc globalement très insuffisant, Célia Kiré.
À partir de 2025, il faudra que les émissions de CO2 baissent de 3% minimum par an, c'est-à-dire 3 fois plus qu'aujourd'hui. Le Haut Conseil pour le Climat a déjà publié des alertes, des recommandations pour guider le gouvernement. Et malgré cela, les résultats ne sont pas là. La climatologue Corinne Le Quéré, présidente de ce Haut Conseil, est excédée.
Je suis très déçue. Je trouve qu'on parle beaucoup de climat, qu'on reconnaît l'urgence. J'aurais voulu vraiment voir un peu plus d'urgence dans les actions, autant qu'on en dit dans les mots. Le Premier ministre, lors de sa réponse à notre rapport à la fin de l'année, avait annoncé qu'il allait demander des feuilles de route par ministère. Ça, c'est la bonne voie, mais en fait, les feuilles de route, elles n'ont pas encore été demandées. Le climat n'est pas prioritaire, ça se voit.
Cette climatologue attend beaucoup désormais du plan de relance qui doit tenir compte des limites climatiques de la planète. Parmi les recommandations de ce nouveau rapport, elle insiste sur l'investissement qui doit être massif dans les transports en commun, la rénovation, les énergies nouvelles, le stockage du CO2 dans l'agriculture ou encore le développement développement des protéines végétales. Pour elle, le chèque adressé au secteur aérien et automobile sans réelles conditions ne va pas dans le bon sens. Voilà un message, de plus, adressé à tout le nouveau gouvernement dans son ensemble.
Et voilà le tableau environnemental, économique et social qui attend le nouveau gouvernement Castex qui entre dans l'arène parlementaire aujourd'hui.
Les nouveaux ministres vont devoir se prêter au jeu des échanges avec les sénateurs cet après-midi, avec les députés auparavant dans l'hémicycle à partir de 11h. Habituellement, cette séance a lieu le mardi après-midi à 15h à l'Assemblée nationale. Un petit changement de programme qui crée pas mal de remous au sein de l'opposition. Rosalie Lafarge.
Les insoumis, c'est toute la séquence qui les agace. Leur chef de file, Jean-Luc Mélenchon.
Ils décident qu'ils changent de gouvernement un jour sans prévenir personne. À 9h, nous voilà tous ici pour suivre un débat sur une loi qui est en cours. À 9h30, on ferme la boutique. Tout le monde est prié de rentrer chez soi. Ensuite, un gouvernement est nommé. Les questions d'actualité ne peuvent pas avoir lieu parce qu'à la même heure, il y a un conseil des ministres. Il n'y en avait pas d'autres. Hein. Pile celle-là, 15h. Alors donc, nous sommes reconvoqués le lendemain matin, s'il vous plaît. Donc, nous sommes à leur disposition.
À l'UDI aussi, Jean-Christophe Lagarde a un peu de mal à comprendre.
Je suis persuadé qu'il pouvait faire un conseil des ministres à 10h, à 11h ou à 17h. En tout cas, il n'est pas souhaitable que les questions au gouvernement, qui sont tout ce qui reste du contrôle parlementaire quasiment, sautent à disposition du conseil des ministres.
Mais cela va dans le sens plus général d'un certain mépris des institutions pour le patron de Les Républicains à l'Assemblée, Damien Abad.
On a le sentiment que le Parlement, c'est un peu la dernière roue du carrosse. Et qu'en gros, on organise l'agenda et puis on voit après si on peut caler la case Parlement. Pour moi, le Parlement, c'est pas simplement un exercice obligé. C'est aussi un moment de démocratie. Et donc c'est essentiel que ces moments aient lieu.
Il a lieu avec quelques heures de décalage, répond Gilles Legendre, le premier des marcheurs au Palais Bourbon.
Est-ce que ce n'est pas un peu surjoué ? Je suis sûr que les Français ont envie de participer à cette polémique absolument essentielle pour leur vie quotidienne.
Polémique stérile pour La République En Marche, pas tant que ça, répondent les députés de l'opposition qui s'étonnent aussi de devoir attendre les détails du nouveau chemin présidentiel le 14 juillet avant d'avoir droit à la déclaration de politique générale du Premier ministre.
Le Premier ministre Jean Castex qui s'est invité hier à une réunion décisive avec les syndicats en plein Ségur de la Santé annonçant une rallonge de plus d'un milliard d'euros pour les salaires, soit 7,5 milliards d'euros au total pour cette enveloppe. Les syndicats en attendent le double. Une information judiciaire sur la gestion ministérielle de la crise de la Covid-19 a été confiée à la Cour de justice de la République, ouverte hier contre Édouard Philippe, Olivier Véran et Agnès Buzyn. L'annonce a été faite par le procureur général près de la Cour de cassation, François Molins. C'est aujourd'hui que commencent les auditions dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur la crise du coronavirus, une commission parlementaire de plus, puisqu'elle vient en parallèle de celle déjà menée à l'Assemblée nationale, Margot Delpierre.
Au programme de la première audition du Sénat, la région Grand Est. Son président sera entendu cet après-midi par téléconférence, puis demain ce sera au tour de plusieurs autres responsables de la région, l'une des plus durement touchées par l'épidémie avec l'Île-de-France. Le Sénat, dominé par la droite, a voté à l'unanimité la semaine dernière la création de cette commission d'enquête. Présidée par le sénateur Les Républicains et médecin Alain Milon, elle doit durer 6 mois maximum et compte 36 membres. Un peu comme celle commencée début juin à l'Assemblée nationale. Elle aussi doit durer 6 mois. Elle aussi compte une trentaine de membres. Les députés ont déjà entendu l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, le professeur Didier Raoult et le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, entre autres. Ils essaient de faire la lumière sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Sur la question des masques, des dépistages et des EHPAD, par exemple, pour établir la responsabilité politique des défaillances. De son côté, Alain Milon a expliqué récemment à Public Sénat qu'il ne souhaitait pas entretenir la polémique. Il veut s'intéresser à l'aspect scientifique plus que politique et espère trouver des moyens de lutter à l'avenir contre ce genre de virus. Il souhaite notamment organiser des confrontations entre scientifiques.
La pandémie de Covid-19 fait également la une à l'étranger. Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé positif à la Covid-19. Il l'a annoncé hier, au moment même où Donald Trump lançait lui officiellement la procédure de retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis qui ont franchi hier la barre des 60 000 contaminations quotidiennes, c'est un nouveau record. Et Donald Trump invoque des raisons sanitaires pour expliquer sa décision qui potentiellement peut placer dans l'embarras 1 200 000 ressortissants étrangers qui étudient dans ce pays. L'administration Trump vient en effet d'annoncer que les étudiants non américains ne seraient plus autorisés à rester sur place si leurs universités continuent d'enseigner à distance. Grégory Phillips, le correspondant de France Culture aux États-Unis, a pu joindre un étudiant français qui a très peur de devoir quitter le pays précipitamment.
Il vit aux États-Unis depuis bientôt 5 ans. En mai dernier, Vincent Martin a décroché son bachelor, équivalent de la licence Bac plus 3 en France, et il s'apprête à intégrer la DePaul University à Chicago pour un master en entreprise et finance. Mais comme tous les étudiants étrangers, il vient d'être informé de la nouvelle politique de la police, de l'immigration et des douanes.
En fait, c'est si vous êtes étudiant full-time et que tous ces cours sont en ligne, alors vous êtes obligé de rentrer en France. Vous ne pouvez pas rester étudiant dans cette université aux États-Unis. Aujourd'hui, par exemple, des étudiants à Harvard, Harvard a décidé d'aller complètement en ligne. Donc, c'est-à-dire que tous les étudiants internationaux de Harvard vont être obligés de rentrer dans leur pays. Et ça, rien n'était prévu.
La mesure concerne les visas F1, ceux des étudiants, et aussi M1 pour les formations professionnelles.
L'administration Trump veut protéger tous les travailleurs américains. Mais de là à renvoyer tous les étudiants internationaux sous un visa F1 dans leur pays respectif, c'est complètement absurde.
Seul espoir pour Vincent, que son université de Chicago parvienne à maintenir certains cours en présentiel. Sinon, ce sera le retour en France.
Eux choisissent de partir et c'est aussi une conséquence de la crise sanitaire et économique. Au Liban, en quelques mois, la livre s'est effondrée, les prix explosent, un Libanais sur deux est passé sous le seuil de pauvreté. Le climat social et politique est explosif et le Liban se vide, Aurélien Colli.
Dans le cabinet du docteur Fayad, les enfants défilent, une soixantaine chaque semaine pour ce pédiatre franco-libanais qui a vu ses revenus divisés par 5 avec l'effondrement de la livre.
Moi j'ai une famille avec 2 enfants qui font leurs études en France. Et puis aussi nos parents à gérer, parce que au Liban, il n'y a pas de retraite. Et puis leur argent qui est à la banque, ils n'y ont plus accès. Sur le plan financier, ça devient ingérable.
Le docteur Fayad a fait ses études en France avant de revenir au Liban pour vivre dans son pays d'origine, participer aussi à son développement. Mais 20 ans plus tard, il s'en va, il quitte le Liban pour ne pas sombrer avec lui.
On a encore cette chance de pouvoir partir. Même à plus de 50 ans, de pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, c'est possible. Mais en même temps, c'est un déchirement, parce que pour moi, c'est 20 ans d'investissement. Et c'est vrai que si j'y pense, là, je me mets à pleurer tout de suite.
Des Libanais quittent leur pays, des expatriés aussi s'en vont. Alexis est français, arrivé en 2015 pour travailler dans une start-up.
Aujourd'hui, mon salaire ne vaut plus qu'un tiers de ce qu'il valait avant. Ça, couplé avec l'inflation, c'est devenu intenable. Et puis, il y a tout le reste. Les amis qui s'en vont les uns après les autres, ça se vide. Donc, ça aide pas à se dire, on va attendre, ça va passer, et puis ça ira mieux après.
Tout en bas de l'échelle, il y a aussi les petites mains du Liban, femmes de ménage ou babysitter, venues d'Afrique et du sous-continent indien.
Every month, I used to send money for my family, $400.
Chaque mois, j'envoyais $400, mais je ne peux plus. Je n'ai même pas assez pour moi. C'est impossible de rester ici. Ici, explique Chandra, une Sri Lankaise qui a passé 15 ans au Liban et qui partira elle aussi cet été avec un billet d'avion payé par son employeur. Une chance car nombre de ces étrangers doivent se débrouiller seuls, renvoyés ou même parfois abandonnés dans la rue par des patrons qui ne peuvent plus les payer.
Aurélien Colli au Liban pour France Culture. À Hong Kong, la chef de l'exécutif salue un moment historique aujourd'hui avec l'ouverture du bureau de la défense de la sécurité nationale qui permettra aux agents du renseignement chinois d'opérer ouvertement sur le territoire. Les partisans de la démocratie, eux, déplorent ce moment historique. Au moins 180 cadavres ont été retrouvés dans des fosses communes au nord du Burkina Faso. Human Rights Watch estime qu'il s'agit vraisemblablement de victimes d'exécutions commises par les forces gouvernementales. Le gouvernement écossais prévient, il bravera une proposition de loi britannique qui permettrait au Parlement de Westminster de fixer unilatéralement les normes alimentaires et environnementales. C'est ce que rapporte ce matin le Financial Times. Alors que la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a arpenté hier les couloirs du Louvre, le musée a rouvert lundi. Nous vous emmenons ce matin en avant-première à Londres. La célèbre National Gallery rouvre ses portes ce matin après avoir été close pendant plus de 100 jours. De Rembrandt à Velázquez, de Rubens au Caravage, les œuvres d'art sont toujours les mêmes, mais les visiteurs vont désormais connaître une expérience très différente au Tsoufi.
Welcome back, peut-on lire sur les bannières à l'entrée du bâtiment. L'accès à la National Gallery est de nouveau possible, toujours gratuit, mais désormais sur réservation, à un créneau horaire déterminé à l'avance. Et plus question de déambuler entre les tableaux au gré des envies du visiteur, Caroline Campbell, directrice des collections du musée.
Il y a trois itinéraires au choix, élaborés avec soin par nos conservateurs. Il faut respecter le sens unique du chemin, mais nous pensons qu'en fait, les visiteurs vont vraiment apprécier parce que c'est une expérience différente de la National Gallery, mais toujours merveilleuse.
Les plus petites salles resteront encore fermées quelques temps, mais l'immense majorité de la collection est visible. Sous l'œil des gardiens du musée, tous équipés de visières de protection, les visiteurs, eux aussi, devront se soumettre aux nouvelles règles sanitaires en respectant notamment 2 mètres de distance. Gabriele Finaldi, le directeur de la National Gallery.
Ils auront la possibilité de se laver les mains avec du gel et nous demanderons aux gens de porter un masque. Le plus important, en plus du plaisir de revenir dans la galerie, c'est que les gens soient en sécurité quand ils viennent et qu'ils se sentent en sécurité.
Pas de limite de temps pour contempler les œuvres des peintres classiques, baroques ou impressionnistes. Ceux qui veulent faire les 3 parcours lors d'une même visite le peuvent. Les visiteurs les plus pressés choisiront l'itinéraire B pour admirer un portrait de Charles Ier par Antoine Van Dyck qui vient tout juste d'être restauré.
Un reportage signé Aude Soufie à Londres pour France Culture. Le temps de ce mercredi 8 juillet mitigé dans le nord de l'Hexagone, ensoleillé et chaud sur une large moitié sud. Au meilleur de la journée, il fera 27 degrés à Paris et à Rennes, 31 à Périgueux et à Grenoble, comptez 34 degrés à Avignon.